BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face.
Face à face, comme chaque lundi, entre Olivier Delamarche. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Pour Platinium et les Éconoclastes. Et cette semaine, Régis Béguet pour Lazard Frères Gestion. Bonjour Régis.
Bonjour Cédric.
Allez, votre regard sur ce marché. Alors, il y a pas mal d'actualités à commenter. On sort enfin un petit peu de la poussière du Brexit. Il y a des chiffres de l'emploi américain. Il y a des élections au Japon. Il y a peut-être un peu d'inflation en Chine ou encore de la valorisation et des résultats d'entreprises qui vont commencer aux États-Unis. D'abord, le marché en lui-même. Voilà, 15 jours après le Brexit, la poussière est retombée. On va rentrer grâce aux résultats, Régis, sur un vrai moment de marché ou pas ?
Oui, on va retrouver
de la torpeur estivale, en tout cas.
Un comportement un petit peu plus rationnel. En tout cas, on peut l'espérer. C'est pas totalement illogique que le comportement du marché était irrationnel post-Brexit, puisque personne ne sait à quoi va ressembler le Brexit, hein, d'aucune manière que ce soit. Sur un plan concret, on est parti pour quelques années dizaine d'années. De renégociations tous azimuts, donc c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de certitudes auxquelles s'accrocher, et donc dans ce cadre-là, le marché est parti un petit peu tous azimuts. On va revenir sans doute à une vision un peu plus concrète à l'occasion des résultats. Ce qu'on en sait du Brexit, c'est que voilà, la livre avait baissé de 10% avant, elle a baissé de 10% après. Donc il y a mécaniquement un appauvrissement du UK de 20%, voilà, c'est à peu près la seule chose qu'on sache. Après, la consommation probablement va être impactée, l'investissement aussi. Le consensus dit 1,5% de PIB probablement pour le UK, et un impact mineur sur la zone euro, 0,20, 0,30 de PIB. Bon, enfin mineur, c'est pas non plus totalement négligeable, mais c'est pas ça n'a rien à voir avec le comportement que le marché a adopté post-Brexit, en tout cas.
On peut imaginer que voilà, en retrouvant les fondamentaux, les résultats d'entreprise, on est un vrai moment de marché ou pas, Olivier ?
Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un vrai moment de marché ? Ça fait des années qu'il n'y en a pas. Ça fait des années qu'on fait le grand écart entre les fondamentaux et la bourse. Ça fait, et ça va durer. Aujourd'hui, vous avez parlé, là, en début d'interview, de ce qui s'était passé au Japon. Monsieur Abe est réélu. On sort à ce moment-là des commandes de machines-outils qui sont juste catastrophiques, mais comme dans la lignée de tous les chiffres qui sortent au Japon depuis des années. Et on se prend 4% de hausse sur le Japon. Pourquoi ? Parce que Monsieur Abe a l'habitude de réussir ce qu'il entreprend, non ? Il y a un pays qui est mourant avec une dette abyssale, des déficits abyssaux, etc. Et il n'en finit plus de mourir, et on se réjouit par la hausse de 4%, non pas de peut-être avoir de bons résultats un jour, non, pas du tout. Tout simplement que on se dit que Monsieur Abe, une fois réélu, va pouvoir déverser,
va avoir des marges de manœuvre qui lui permettront
sur le marché japonais, et que enfin on va assister à la baisse du yen, et que donc s'il y a baisse du yen, comme chacun sait, c'est excellent pour l'économie. C'est pas bon pour l'économie anglaise, mais c'est très bon pour l'économie japonaise. Va savoir pourquoi. Mais enfin, c'est comme ça. Et donc ça n'a pas fait augmenter les exportations, ça n'a rien eu comme effet sur les ménages japonais, mais bon, on va continuer. On attend qu'on nous donne un peu d'argent pour pouvoir aller faire mumuse sur les marchés japonais, qui, je vous le rappelle, sont quand même en grand danger, puisque c'est la Banque du Japon qui achète absolument tout le marché japonais, et qu'aujourd'hui, vous avez entendu la semaine dernière que le principal fonds souverain japonais, qui est aussi le principal fonds souverain mondial, avait perdu 45 milliards sur la dernière phase et 100 milliards depuis le début de l'année. Tout va bien. Donc, continuons comme ça.
Alors juste sur la
Votre sentiment chez Lazard Frères Gestion sur le Japon.
Sur la devise, ça n'est jamais une mauvaise nouvelle que pour un pays que sa devise monte. Ça l'enrichit. Plus cette devise est forte relativement aux autres devises, plus sa richesse relative est importante pour tous les pays.
Relative.
Maintenant, dans un certain nombre, dans certaines bornes, le problème du yen, c'est que c'est la devise dépasse tous les niveaux de compétitivité normaux, normal, oui, enfin bref.
Ça dépend si c'est les niveaux, la compétitivité. Jusque-là, voilà. C'est bon.
Voilà. Raisonnable qu'on pourrait atteindre. Et l'économie japonaise est une économie qui est fondamentalement une économie exportatrice. Donc le fait que le yen soit fort handicape les exportations. Alors qu'au UK, l'industrie représente une part relativement faible de l'économie, environ 12%, et donc l'affaiblissement de la devise est plutôt une mauvaise nouvelle. Voilà. Mais maintenant, il y a pas de règle absolue sur les devises. Moi, je partage pas l'analyse que le Japon soit un pays mourant. C'est un pays dont la croissance est faible, relativement à une population dont la croissance est faible aussi, voire négative.
Quand il y a un tiret devant, c'est négatif. Même.
Pardon ?
Quand il y a un tiret devant, c'est négatif. Oui. C'est pas le début d'une liste.
Et donc, c'est une croissance faible, mais une croissance faible ne veut pas dire forcément la mort d'un pays.
Alors, le Japon, s'il était si exportateur que ça, quand on a eu un yen à 1,20, 1,22, aurait dû montrer des chiffres excellents. Ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps que le Japon n'exporte plus. C'est des assembleurs. Donc ils vont acheter ailleurs les composants, ils assemblent chez eux et ils exportent après, quand ils exportent après, c'est-à-dire quand ils ne sont pas installés déjà dans les autres pays. On l'a vu, de toute façon, systématiquement, une monnaie qui baisse ne relance pas les exportations. C'est une erreur. Alors c'était vrai, oui, il y a 50 ans, mais ça ne l'est plus maintenant. Donc maintenant il y a d'autres sujets, je pense, que le Japon, parce que aujourd'hui je pense que ça n'est plus un pays qu'il faut mettre dans les radars, pour la bonne et simple raison que je vous dis, économiquement c'est une catastrophe. La seule chose qui peut être intéressante, c'est de le regarder comme un bouquin d'histoire qui nous apprend à quelle sauce on va être mangé sur les mois et les années qui viennent.
Retour vers le futur.
Pour ça, c'est vraiment intéressant.
Bon.
Mais comme peu de gens, de toute façon, le regardent et le lisent pour se demander ce qui risque de nous tomber sur le nez, c'est pas bien grave.
Voilà. La japonisation du monde, c'est un thème qui est assez récurrent, mais comme le Japon, c'est un tout petit pays dans une très grande économie, si la très grande économie devient elle-même le Japon, c'est assez auto-centré.
Quand on regarde les autres zones, et notamment par exemple les États-Unis, qu'est-ce qu'on se dit, Olivier, vous qui êtes un grand pourfendeur des chiffres de l'emploi américain?
Bah, que c'est rigolo, c'est-à-dire c'est une
38, 11, 287.
C'est une erreur statistique. Je pense que ça.
Et quoi, les 11 qui sont une erreur statistique ou les 287 000?
Non, bah c'est les 287 000. C'est-à-dire que d'abord, si vous les prenez comme ça et que vous allez regarder un tout petit peu ce qu'il y a dedans, vous apercevez que à 90%, c'est des embauches de gens de plus de 55 ans.
C'est bien.
En revanche, entre 25 et 55, donc les gens qui sont dans la force de l'âge et qui normalement devraient trouver un boulot à la sortie de leurs études, eux on les embauche pas, on les débauche. Donc je suis pas sûr que ce soit une excellente nouvelle, mais bon, après on va
bon, y a quand même un petit truc bien, si je prends votre grille de lecture, Olivier, c'est que le taux de participation a augmenté
de zéro.
Ah non, Je me précipite.
De zéro virgule quelque chose.
Ouais.
Okay. Passionnant. On est toujours dans le même trend avec de toute façon une productivité qui baisse aux États-Unis, des résultats de société qui sont de moins en moins bons, et donc a priori on peut se poser la question de savoir si, je vous dis, si c'est pas une erreur statistique. Vous prenez d'ailleurs l'enquête sur les ménages, elle est beaucoup plus raisonnable que ça, et donc on peut se dire que ce grand écart est quand même un peu suspect. Mais peu importe, sur les mois qui viennent, vous avez une économie qui ralentit aux États-Unis, vous avez des résultats, je vous dis, qui sont nettement moins bons que ce qu'on a eu dans le passé. Donc on sait très bien comment réagissent les sociétés américaines. Elles vont virer du personnel pour essayer de maintenir à peu près leur marge. Donc vous aurez de mauvais chiffres sur les mois suivants, peu importe.
Le problème des erreurs statistiques, c'est que quand les chiffres sont bons, on dit que les statistiques sont fausses. De fait, les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont quand même très impressionnants. C'est une économie qui a créé beaucoup d'emplois sur les dernières années. Beaucoup plus d'emplois avec moins de croissance, en fait. C'est un phénomène qui s'est mis en place depuis 2008-2009. On crée plus d'emplois avec moins de croissance aux États-Unis. Le chômage, d'ailleurs, il baisse partout. Il baisse aussi de manière assez rapide en Europe, partant de niveaux qui sont beaucoup plus élevés. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de chômeurs. Ça n'empêche pas que le niveau de chômage baisse et qu'il y ait des créations d'emplois. Aux États-Unis, on frôle vraiment le plein emploi. Donc la question bizarre aux États-Unis, c'est comment on peut conserver des taux aussi bas avec de la croissance, avec de l'inflation et avec du plein emploi. Aux États-Unis, en nominal, on croit à 4%. On a 4,9% de chômage. On a des taux à zéro et des taux longs qui sont à 1,5. Donc là, il y a une vraie anomalie qui est liée à la situation très probablement des émergents, un premier temps où la Fed a dû reculer devant les émergents, et puis aussi à la situation de l'Europe et à la crise européenne, qui a provoqué effectivement un équilibre un peu étrange sur les plans.
Pour le moment, on n'en voit pas vraiment le bout. Janet Yellen, a priori, en voyant remonter le dollar, se dit ma devise est en train de faire une partie du boulot.
Il y a une grosse incertitude effectivement sur la façon dont on va se sortir de cette spirale infernale, qui inspire finalement plus de pessimisme probablement qu'elle ne rassure, puisque si on prend l'année qui vient de s'écouler, on aura quand même eu la fin du monde à cause de la Chine, la fin du monde à cause des matières premières, la fin du monde à cause du pétrole, fin du monde à cause du Brexit. Maintenant, on s'apprête à avoir la fin du monde avec le référendum en Italie, puis la fin du monde avec les élections américaines.
Il y a beaucoup de fin du monde.
Et puis voilà. Et puis aucune de ces fins du monde ne s'est produite d'aucune manière que ce soit. Mais voilà, on baigne dans ce pessimisme ambiant, dans cette vision apocalyptique. Probablement, encore une fois, lié au fait que les taux soient négatifs, puisque vous aimez bien les chiffres négatifs, ce qui est évidemment une absurdité intellectuelle.
Les taux américains, il y a de plus en plus de scénarios qui nous disent il y a peut-être même une baisse de taux qui se prépare du côté
bien
de la réserve fédérale.
J'espère que vous blaguez quand vous nous décrivez la situation idéale sur la baisse du chômage dans le monde. Vous essayez sûrement de dériver les supporters de foot d'hier qui ont été déçus, mais... Non, enfin franchement, on peut pas dire que le taux de chômage baisse. Mais non, mais enfin bon, on va pas le réexpliquer ici. Le taux de participation à la population active, enfin, vous avez 20% de chômage aux États-Unis. Bon, et en Europe
50.
Et en Europe, non, pas 50.
Soyons
juste factuels et arrêtons de rêver. Ça c'est bien pour les politiques, mais là on fait pas de politique. On est
des économistes ou on devrait l'être. Et donc vous parlez de ça, il faut quand même un peu creuser et un peu regarder et pas prendre simplement le chiffre de 4,9 en se disant ah, c'est formidable, ils en sont au plein emploi. Si réellement ils étaient au plein emploi, si réellement ils avaient 4% de croissance, si réellement tout se passait si bien que ça, est-ce que vous pensez pas que Madame Yellen n'aurait pas hésité une demi-seconde à remonter ses taux? Elle ne le fait pas parce que, et elle cherche à chaque fois, alors un coup ça a été la Chine, un coup c'est le Brexit, la prochaine fois ça sera je ne sais quoi, pour essayer d'expliquer qu'on n'y est pas. Quand on a des résultats comme ça d'entreprise, quand on a une classe moyenne qui a complètement disparu aux États-Unis, enfin on ne peut pas dire que les choses vont bien. C'est juste ridicule. Donc sur les taux d'intérêt, on a en effet, vous avez pas mal de grandes banques qui ont augmenté leur probabilité d'une récession aux États-Unis en 2016. Je crois que BofA est à 65%. Il y en a d'autres et que en effet, on s'attend à ce que Madame Yellen non seulement inverse sa hausse des taux, mais surtout face à un QE4, parce que aujourd'hui ils n'ont plus que ça, les pauvres. Ils n'ont plus que ça pour continuer à entretenir l'illusion du système. Donc ils le feront comme Monsieur Abbé en remettra une couche parce qu'il n'a pas le choix, parce que il faut bien financer le déficit budgétaire qui se tape tous les ans avec sa faible croissance, avec un tiret de vent, donc une récession. Vous êtes en inversion de courbe des taux totale au récession, Japon, mais tout va bien et bien sûr que tout va bien. Bon. C'est vraiment, on se demande d'ailleurs comment ça pourrait pas aller mieux.
Du coup, dans...
si on aurait pu marquer un but, ça serait peut-être allé mieux. Et puis, mais sinon, c'est tout. Vraiment, il n'y a que ça.
Dans ce monde difficile à percevoir ou à synthétiser, comment est-ce qu'aujourd'hui un investisseur qui nous écoute peut ou doit se positionner face à la période particulière qu'elle était et puis d'essayer de construire une stratégie en faisant son miel des explications des uns et des autres?
Il y a eu un énorme écartement entre deux types de valeurs, les valeurs dites cycliques dans lesquelles on peut inclure les bancaires ou la partie value du marché qui est pratiquement très proche de ses plus bas historiques, et puis toute une autre partie du marché qui est très proche de ses plus hauts historiques, soit parce que il y a eu effectivement de la croissance des résultats, soit parce que il y a eu de l'inflation de multiples. On voit que le SP500 est très très proche de son plus haut historique. Mmh. Je ne sais pas si ce chiffre est faux aussi. En tout cas, si je le regarde sur mes écrans, il a l'air d'être très élevé. Donc, ce qui est vrai, c'est que dans cette période-là, il y a eu aussi de l'innovation technologique qui a pas mal bouleversé un certain nombre d'économies, qui a détruit un certain nombre de business pour en créer d'autres. Hein. Si vous prenez la révolution Amazon, ça laisse des blessés sur le bord de la route, mais ça crée aussi beaucoup de richesses parallèlement. Donc vous avez cet énorme écartement en fait de valorisation qui est évidemment lié aussi au taux d'intérêt très bas. Comme je garde la foi, je crois à une normalisation des taux d'intérêt à un moment donné. Je pense qu'à l'occasion de cette normalisation des taux d'intérêt, les valorisations vont converger les unes vers les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valeurs plutôt très chères ont tendance à baisser, tandis que les valeurs plutôt pas chères, c'est-à-dire encore une fois les value, les cycliques, les bancaires, ont tendance à remonter pour aller vers une valorisation un peu plus uniforme du marché. C'est ma conviction.
Merci beaucoup à tous les deux. Olivier, des idées d'été?
Oh, moi je vais...
Je voulais vous les laisser pour la semaine prochaine. Je crois que vous revenez encore la semaine prochaine.
Non, je vais acheter des calls Barroso. Hein, parce que les gars qui
vous avez bien aimé ça, je
sens. Le portugais, enfin c'est quand même une image assez extraordinaire, le portugais européen qui part chez Goldman Sachs, moi c'est du vrai miel. Alors faut prendre des calls Juncker, Barroso et puis tout ça quand ils vont passer chez Goldman Sachs pour service rendu, ils vont fortement augmenter leur salaire, donc mon call montera, donc c'est bien. C'est, bon. À mon avis, une bonne chose. Enfin, et franchement,
stratégie,
petit tangente. Système mafieux qui continue, quoi. La Commission européenne, petit système mafieux. Donc, on remercie
Je crois pas que Goldman Sachs appartienne à la mafia, mais j'ai pas de
plus sur le sujet. C'est quand même une mafia. Ça ressemble, en tout cas, très fort.
Olivier Delamarche pour Platinium et les Éconoclastes. Régis Béguet, merci Régis pour Lazare Frères Gestion. Le CAC 40, il est toujours à 4221 points. Il progresse de 0,7%. On a délicatement appuyé sur le frein.